D'accord. Alors, bon, déjà, ce que je voudrais dire, en fait, qui s'applique aussi aux autres participants, c'est que la soumission des projets dépend, en fait, de votre région et de votre CER, Communauté économique régionale. Dans votre cas, vous formez partie de l'ECOWAS, le
Oui.
CDAO. Donc, Monsieur Chris Appiah a pris, en fait, l'initiative dans le cadre de la CDAO, de centraliser un peu tout ce qui est soumission de projet. Donc,
C'est ça.
j'ai compris qu'il y a une correspondance qui est issue de la CDAO à tous les membres de
C'est
la
ça.
CDAO et pour vous demander. Et j'ai aussi compris qu'ils sont en train de travailler sur une liste prioritaire, en fait, d'une cinquantaine de projets
C'est ça.
à travers la CDAO. Alors, ça, c'est. Dans le cas de la CDAO, je vous inviterai en fait à vous rapprocher du point focal haut en fait. Il y a aussi un point focal haut
C'est ça.
dans la CDAO. Donc, je vous inviterai à vous rapprocher de cette personne, de cette équipe et de Monsieur Chris Appiah pour bien
Oui.
comprendre en fait qu'est-ce qui existe déjà dans les plans directeurs en termes
C'est
de
ça.
projet haut. Qui à ce moment-là, et il y a une discussion interne effectivement. Hein, c'est la CDAO, c'est probablement la CER la plus avancée en termes d'intégration régionale et de réseau avec les
Oui.
membres. Donc faites ce travail de discussion interne
Oui.
au niveau de la CDAO avec Chris Appiah et son équipe et tombez d'accord avec. Lui, il faudrait tomber d'accord avec lui sur le ou les projets dans le secteur de l'eau. Il n'y a pas de limite.
Oui.
Moi, une des questions qui a été soulevée dans le passé, c'est est-ce qu'il y a des limites sur les secteurs, sur le nombre de projets? Il n'y a aucune limite sur le nombre de projets par secteur ou par REC ou par région. Par contre, il y aura une liste prioritaire qui sera établie. Par région, en fait. Donc, la région Ouest aura droit à 10 projets qui seront,
Six
enfin, la liste,
projets.
10, 10, 10,
OK.
1, 0, 10 projets dans la liste prioritaire, mais ça n'empêche pas que tous les autres projets, comme je vous ai dit que la CDAO prépare une liste de 50 projets, effectivement, il y aura une dizaine ou plus, hein, peut-être que la CDAO, et il y a eu en fait cette demande qui a été faite à Abuja, pendant la formation de Abuja, que
Oui.
la CDAO s'est un peu plaint que c'est une grande région, beaucoup de pays, grande population, pourquoi est-ce qu'ils ont droit à seulement 10 projets? Ben là, on a
C'est
dit
ça.
que c'est une décision qui va être prise par le Task Force en fonction de
Oui.
la qualité des projets, le nombre de projets. Si on voit qu'il y a 20 projets de la CDAO qui sont extrêmement méritant, très valable et prête à être implémenté, pourquoi pas? C'est une décision qui va être prise ultérieurement, mais
C'est
à
ça.
ce stade, on ne peut que se fier à la décision ministérielle qui a été prise au mois de novembre au Caire par la STC de dire que dans un premier temps, il y aura une présélection de 10 projets par région. Donc,
C'est ça.
pour le moment, ce que je vous invite à faire, c'est de vous inscrire sur le site, de vous rapprocher avec la CDAO. De dialoguer avec eux sur le ou les projets qui sont en considération. Et si vous avez d'autres idées de projets, ben faites part à Monsieur Chris Appiah et son équipe. Comme ça, eux, ils vont décider si c'est un projet qu'ils vont soumettre ou pas. Donc là, le projet va être soumis
Oui.
il va rentrer en fait dans la longue liste. Il y a une longue liste en fait, une liste longue. Et une shortlist, une liste prioritaire.
C'est
Donc,
ça.
dans les deux cas, une fois que le projet rentre dans la longue liste, elle ne peut pas être éliminée. Elle reste dans la liste de PIDA, qui est un travail de longue haleine sur 10 ans. Hein. N'oubliez pas que c'est un travail qui va se faire sur les prochaines 10 années.
Oui.
Et dans un premier temps, liste prioritaire, mais dans un deuxième temps, tous les projets vont éventuellement être considérés. Voilà.
OK.
Alors, ça,
Merci.
alors, Monsieur Demba, oui, a levé la main physiquement. Allez, on vous écoute, Monsieur Demba. Monsieur Demba, attendez, est-ce que vous êtes désactivé, activé?
C'est Monsieur Camara plutôt.
Ah, Camara.
Donc, au sujet de Chris Appiah, donc.
Oui.
Au sujet de Chris Appiah, il est donc le point focal de la CEDEAO au niveau de.
Il y a plusieurs points focaux, mais lui, c'est le coordinateur principal. Si vous voulez, c'est celui au niveau de la CEDEAO qui fait la coordination générale entre tous les autres points focaux. Il y a une dizaine de points focaux. Hein. CEDEAO, c'est. Ouais.
Alors, donc, si j'ai reçu une liste de personnes qui avaient été indiquées. Pour la Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu Chris Appiah, peut-être que je n'ai pas bien regardé.
Non, Chris Appiah n'est pas de la Côte d'Ivoire. Chris Appiah est le point focal, si vous voulez, le coordinateur central de la CEDEAO. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, alors dans ma liste, il y a un collègue qui nous a rejoint, c'est Yacouba Traoré de la Union africaine. Lui, il était présent en fait à Abuja. Il pourra peut-être rajouter des informations. Mais la Côte d'Ivoire, dans la liste que nous on a en fait une liste de 5 personnes. Je connais Moussa pour l'énergie. Djekou pour l'éthique, Abraham Djekou, monsieur vous-même, monsieur Demba pour le transport, Emmanuel Manou, Nguessant pour l'équipement et Kwame, professeur Kwame Kofi pour l'eau. Voilà, ça c'est les points focaux.
Est-ce que toutes ces personnes reçoivent les emails pour faire les échanges vidéoconférences comme
Bien sûr, oui, dans mon mailing.
Ça fait quand même 2 ou 3 fois que je vois personne sur le site en train d'échanger avec vous.
Ben, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vous confirme que dans mon mailing, ils sont tous, sont tous dans mon mailing. J'envoie le mailing par 300 personnes. Nous avons 270 points focaux et les autres, c'est les task force, etc., les partenaires. Donc, tout le monde reçoit le même mail. L'invitation est envoyée à tout le monde. Bon, pourquoi ils ne sont pas connectés, je ne sais pas trop. Il faudrait vérifier effectivement de votre côté.
Il faudrait vérifier parce qu'il y a une liste que j'ai reçue, mais j'ai vérifié, je n'ai pas leur nom dessus. Mais j'ai mon nom, c'est vrai.
Mais de qui vous avez reçu cette liste?
Bon, j'ai reçu sur mon mail, je ne me souviens pas du nom de la personne, mais il y a une liste qui nous a été adressée. Je vais peut-être vous envoyer ça sur votre mail.
Envoyez-moi
pour que vous sachiez la liste qu'on m'a donnée là. Je ne les ai pas retrouvés dedans. Mais il y a beaucoup de personnes, c'est écrit en face Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas donc liées à des ministères que moi je connais.
OK. Ah, d'accord. OK. Bon, effectivement, il y a deux types de. Je pense qu'il y a des points focaux officiels, ça c'est clair. Et puis il y a ceux qui ont aussi participé à la formation, qui sont inscrits sur le site et tout. Mais les points focaux officiels restent les points focaux officiels. Hein. Je vous rassure que les points focaux officiellement nominés par les pays restent ces points focaux-là. Et ce sont ces personnes avec qui la CEDEAO, par exemple, va interfacer. Peut-être mon collègue Yacouba, s'il veut intervenir là-dessus.
Je voudrais peut-être apporter une petite précision.
Oui. C'est peut-être.
Non, on a reçu effectivement.
Oui, allez-y, monsieur Amamadou. Allez-y, je vous écoute.
Voilà. On a reçu une liste récente de Chris Appiah.
Ah, d'accord.
Justement de la CEDEAO. Voilà, qui demandait au point focaux qu'il n'était pas inscrit de s'inscrire parce qu'effectivement. Il y a des gens qui ne se sont pas encore inscrits sur, en tout cas. Donc, c'était un rappel pour dire aux gens, il faut rapidement s'inscrire.
Voilà.
C'est une longue liste, effectivement.
Oui, oui.
Donc, c'est venu de Chris Appiah de la CEDEAO.
Oui, tout à fait.
Sinon, c'est des précisions que je voulais par rapport à la formation d'Abuja. C'est vrai que je n'ai pas suivi depuis quelques temps parce que j'étais dans une situation assez confuse avec un malade, malheureusement, qui est parti. Voilà. C'est Diallo qui suivait mon suppléant. Il y a des gens qui n'ont pas pu rallier Abuja pour faire la formation d'Abuja, dont mon suppléant.
Tout à fait.
Après, il devait y avoir des formations en ligne. Je voudrais savoir, effectivement, est-ce que ça a été fait? C'est-à-dire, c'est la formation sur les critères de sélection des projets. Donc, je voudrais avoir une précision à ce niveau-là. Et rappeler aussi que pour la CDAO, je vous laisse répondre et puis je reviens peut-être pour la seconde phase.
Ok. En fait, la formation, effectivement, il était prévu une formation pour la région Nord qui avait été annulée. Mais par la suite, en fait, on a rattrapé ça avec ces webinars sont justement les sessions de formation. On en a eu une formation dédiée aux pays francophones et une autre dédiée aux pays anglophones. Et celle d'aujourd'hui, en fait, c'est la deuxième formation dédiée francophone. Donc, je vous invite aujourd'hui, en fait, première chose, en fait, le plus important, c'est de vous inscrire. C'est pourquoi M. Chris Arpierre vous a demandé de vous inscrire sur le site. Pourquoi c'est important? Parce qu'une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à toutes les formations. En fait. C'est-à-dire, il y a eu quatre formations avant le COVID, bien sûr, hein, bien avant les lockdowns, les confinements de COVID, ça. Depuis février, on a fait des formations. Donc, toutes les présentations, des formations de 3 jours quand même, hein, comme à Abuja. Tout ça, toutes les présentations sont sur le site en téléchargement pour ceux qui sont enregistrés. Vous avez tous les rapports de ces formations avec toutes les questions qui ont été posées, la liste de tous les participants. Okay. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, quand vous êtes inscrit sur le site, vous aurez accès aux enregistrements. Actuellement, cette conversation est en train d'être enregistrée. En fait, toutes les webinaires sont enregistrés et sont postés. Le lendemain, sont postés sur le site. Donc, même si vous avez raté, si vos collègues ont raté pour diverses raisons, le webinar, vous pouvez toujours écouter en fait en intégralité tout ce qui a été dit, toutes les questions, les réponses et tout.
C'est ça.
Troisièmement, ça vous permet une visibilité totale de qu'est-ce qui est en train d'être proposé à l'échelle africaine.
C'est ça.
Vous allez voir que la liste de tous les projets que tous les autres sont en train de proposer. Par contre, vous n'allez pas pouvoir modifier ces projets. Donc, là, il y a des droits d'accès qui sont alloués au cas par cas. Dans le cas de la CDAO, seule la CDAO a droit à modifier ou à soumettre les projets. C'est une demande qu'eux, ils ont fait. Par contre, dans d'autres régions, dans d'autres CER, où peut-être le CER est moins actif, ils nous ont expressément demandé d'autoriser les pays membres à soumettre les projets. Et eux, ils vont faire la validation. Donc, voilà comment ça se passe.
Merci. La seconde, ça c'est clair. Hein? La seconde partie de ma contribution, c'était de préciser effectivement qu'au niveau de la CDAO, on a pris quand même de l'avance parce que déjà on a validé le plan directeur. En tout cas, au niveau transport, c'est des documents qui ont été déjà validés pour les projets régionaux. Moi, j'échangerai après avec Chris Apia pour voir ce qu'ils en ont fait, en tout cas par rapport à Apia. Mais je pense que c'est sûr que c'est ces projets qui vont être sélectionnés, une partie certainement de ces projets qui vont être sélectionnés et transmis au niveau de l'Union africaine. Okay. Ça, c'est peut-être, si vous en avez l'information, oui. Sinon, je verrai aussi avec Chris pour savoir ce qui a été fait des projets côté Sénégal, Abidjan, parce qu'on a de grands corridors sur lesquels nous sommes en train de travailler. Que ce soit le corridor Praia Dakar Abidjan Lagos, mais aussi le corridor Dakar jusqu'à Niamey qui va jusqu'à Kano. Donc ça, c'est des corridors sur lesquels nous avons travaillé. C'est de voir effectivement est-ce que c'est des projets qui sont soumis comme tels au niveau de l'Union africaine.
Alors, oui, en fait, est-ce que les projets sont suivis ou pas? Ben, en fait, une fois que les projets sont soumis dans PIDA, PAP 2, il y a deux, peut-être un bref rappel hein, pour ceux qui n'ont pas effectivement suivi les formations. Et comme je vous disais, en fait, les webinars, ces webinars qu'on organise représentent en fait un rappel ou même une alternative à la formation face à face qui ne peut plus se faire maintenant avec les conditions qu'on vit actuellement. de pandémie. Donc, je vous invite à assister à ces webinaires. Il y en a qui sont généraux, il y en a qui sont thématiques. Alors, pour nos collègues du secteur de l'eau, je vous invite fortement à vous connecter ce jeudi, où il y aura vraiment une mobilisation de tous les experts à l'échelle africaine dans le secteur de l'eau transfrontalier. On va se focaliser sur l'eau.
Ça va.
Voilà. Ok. Donc voilà. Bon, en fait, je vous invite à mute le micro quand vous ne parlez pas. Sinon, moi, il faut que je peux le faire, mais je le fais pour tout le monde et comme ça, ça bloque aussi la personne qui est en train de parler. Donc, ok, Monsieur Mamadou, je pense que on a répondu à votre question. Donc, je vous invite à faire le suivi avec la CDAO et à soumettre en fait votre projet. Alors, il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que au lieu d'attendre, en fait, voilà, je vous ai un mute aussi maintenant. Au lieu d'attendre en fait la fin, je vous inviterai à quand même soumettre le projet, au moins le titre du projet sur le site, parce qu'il y a sur le site une fonction qui s'appelle forum de discussion, qui permet justement aux membres du pays ou de la CER de dialoguer, de discuter autour de ce projet. S'il y a des éléments que vous voulez clarifier, c'est un outil de dialogue en fait qu'on peut utiliser. Mais pour faire ça, il faut que premièrement les personnes concernées soient inscrites. C'est d'où le mail de rappel de Chris Appia pour demander à tout le monde de s'inscrire. Parce que le danger avec la CDAO, c'est que les membres peuvent, puisque c'est la CDAO qui a pris l'initiative de centraliser, le danger en fait, c'est que les membres se sentent moins concernés et ils s'inscrivent. D'où la logique du mail de Chris Appia pour vraiment demander aux membres de s'inscrire. Deuxièmement, il faudrait à ce moment-là peut-être demander à la CER de poster le projet, même s'il est incomplet. Parce que le projet, vous pouvez le revisiter autant de fois que vous voulez avant le deadline, hein, avant la date limite qui n'est pas encore, qui a été étendue jusqu'à nouvel ordre, hein, jusqu'à ce que les gens aient le temps dans les conditions dans lesquelles on travaille de se soumettre. Mais le plus tôt que votre projet figure sur le site, il sera visible par vous-même, par vos collègues, même vos collègues dans votre bureau, hein, même si, parce que je présume que parce que tout le monde est un peu en confinement. Donc, même si c'est votre collègue qui est dans votre bureau à côté, ben, vous n'êtes pas forcément au bureau. Tout le monde est à la maison, plus ou moins. Donc, c'est un outil qui vous permet de communiquer entre vous dans le même pays, quoi, dans le même bureau à la rigueur, mais puisque vous êtes tous en confinement. Donc, utilisez cet outil pour le faire. Inscrivez-vous, tout le monde. Deuxièmement, inscrivez vos projets. Comme ça, vous allez pouvoir initier un dialogue autour de ce projet. Si vous avez des questions, etc.
D'accord, c'est très bien.
Donc, je vois, il y avait Didier Yahi qui avait… Merci, Monsieur Mamadou. Il y avait Didier Yahi qui avait levé la main. Monsieur Didier Yahi, vous voulez parler? Allez-y, on vous écoute.
Oui, j'avais une petite intervention par rapport au projet au niveau de la CDAO. Je voudrais juste compléter que si vous allez sur la plateforme de soumission des projets, Monsieur Appia a commencé déjà par en mettre.
Ok. Et effectivement, quand on regarde Project Submissions, peut-être ce que je vais essayer de faire. Attendez. Hein. Alors, je vais peut-être faire quelque chose. Je vais peut-être partager mon écran. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Attendez. Vous voyez l'écran, Pida?
Oui, là, moi, je vois.
Ah, d'accord.
Oui, on voit l'écran.
Bon, oui, voilà. Ça, c'est... Bon, peut-être on va passer rapidement sur l'écran. Alors, une fois que vous êtes inscrit, voilà à peu près ce que vous allez voir. Donc, quand vous cliquez ici sur... Bon, je vais mettre en français. Attendez, c'est en anglais, là. On va mettre ça en français. Voilà. Le site est parfaitement bilingue. Il faut cliquer en haut, anglais-français. Vous voyez là-haut, là. Donc, maintenant, tout est en français. Alors, moi, je suis inscrit et soumission de projet. Voilà. Vous allez voir dans le menu qui s'appelle soumission de projet, projet proposé. Donc, dans projet proposé, voilà. Voilà la liste des 38 projets. Donc, si vous venez en bas, si vous voulez voir tous, il faut les cliquer ici sur tous. 50, par exemple. Là, ça va faire défiler les 38 projets. Et effectivement, vous avez aussi un filtre. Afficher le filtre. Voilà, le filtre est à gauche. Donc, ça vous montre que, par exemple, on a à ce jour 4 projets dans l'eau, 5 projets sur l'éthique, 14 projets en transport, 15 projets en énergie. En termes de région, l'Afrique australe, c'est 11, centrale, 13, l'Afrique de l'Est, 12, l'Afrique de l'Ouest, 8 projets, effectivement, et l'Afrique du Nord, 2 projets. Et en termes de CER, la CDAO est à 9, CEAC, etc.
On peut cliquer dans CDAO pour voir un peu?
Exactement. Donc, si vous cliquez dans la CDAO, voilà la liste des projets de la CDAO. Donc, vous avez, par exemple, le Nafissat qui a été envoyé par l'Égypte, je pense. L'Ali, Ghana, Burkina, Mali, qui est ECOWAS, ligne de transmission énergie, électrification rurale, projet
d'Ambi, c'est inscrit. Ma préoccupation est prise en charge.
Voilà. Donc, vous allez pouvoir à ce moment-là suivre en temps réel, littéralement en temps réel, qu'est-ce qui a été soumis. Et par exemple, si vous cliquez maintenant « Edit », si vous venez sur un projet quelconque, on en prend celui-là, la ligne de transmission, vous allez voir… Les détails du projet, les secteurs suivants, etc.
C'est ça.
OK. Et ça vous permet de voir, en fait, tous les détails des projets soumis.
Alors, c'est bien.
OK. Donc,
non, c'est bien.
Le filtre, il est là et ça, c'est un outil en fait de communication qui vous permet de communiquer et de voir. Ça permet une bonne visibilité en fait. Et peut-être je passe rapidement sur les autres menus là. Donc, dans téléchargement, vous allez voir documents. Donc, dans documents, voilà les documents qui sont disponibles. Et pour nos amis de l'Afrique du Nord, je rappelle que les deux documents principaux, c'est-à-dire la note stratégique et le rapport analytique, sont maintenant disponibles en arabe. Vous allez voir en bas, documents en arabe. Donc, si vous avez des difficultés pour suivre en anglais ou en français, vous pouvez télécharger les versions en arabe de ces documents. On a initié aussi la traduction en portugais qui n'est pas prêt. Mais une fois que c'est prêt, ça va être posté sur le site. Donc, vous pouvez aussi télécharger. Vous avez le guide, en fait, en anglais et en français. Donc, suivant le langue que vous choisissez en haut, ça affiche le document dans la langue correspondante. Donc, vous pouvez télécharger tous les documents. Vous avez ici les rapports. Voilà. Ça, c'est la liste de tous ce qui a été présenté. Par exemple, on a commencé à Libreville, au Gabon. Du 25 au 27 février, vous avez l'agenda, le rapport de l'atelier, la liste des participants. Vous avez, deuxième, c'était Abuja. Troisième, c'était à Gaborone. Quatrième, c'était à Addis. Et on a aussi l'agenda de l'atelier Nord qui n'a finalement pas eu lieu, mais qui est remplacé par ces webinars. Et vous avez dans la colonne à droite tout le matériel de formation, c'est-à-dire toutes les présentations en anglais et en français qui ont été faites pendant ces présentations en face à face. On a développé une version un peu condensée qui s'appelle, pour la région Nord, en fait, comme c'était prévu en ligne, c'est la version qu'on a présentée dans anglais-français dans les deux webinaires dédiés et qu'on peut reprendre d'ailleurs. S'il y a des éléments que vous voulez reprendre, aujourd'hui, on peut reprendre ces présentations et repasser dessus. Finalement, dans l'onglet ici qui s'appelle « Événements », quand vous cliquez dessus, vous allez voir le programme webinar. Ça, c'était la liste de tous les webinars qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le premier, c'était le mardi 21 avril. Et vous avez le MP3, quoi, l'audio. En cliquant dessus, vous pouvez écouter le webinar. Donc, ça vous permet de vous rattraper. Il y a celui sur le genre, le 23 avril. Et il y a celui dédié aux francophones du 28 avril. Donc, je vous invite, si vous avez raté celui-là, c'est là que le 28 avril, que vous pouvez écouter pendant 2 heures. Hein, on a présenté, on a fait des questions-réponses. Ça vous permet de vous rattraper si pour ceux qui n'ont pas pu suivre Abuja, par exemple, ou celui-là, le 28 avril, ça, c'est, vous pouvez vous rattraper, vous écouter ici. Et pour les anglophones, c'était le 30. Finalement, on a eu une session sur la boîte à outils. Le 7 mai et aujourd'hui le 12, on fait la deuxième session francophone qui va aussi être postée demain en ligne. Voilà. Donc, et vous avez aussi la suite. Si vous regardez plus bas, vous allez voir pour jeudi, voilà le lien pour jeudi. Vous avez le lien pour jeudi et vous aurez aussi le lien pour tous les autres séminaires. Okay. On essaye de faire une thématique sur la digitalisation, une thématique sur le marché unique de l'électricité. Mais ça va être posté dès qu'on a les confirmations des personnes ressources, etc. Voilà le site. Et vous avez ici un « Nous contacter ». Donc, vous avez ici, dans le dernier onglet, vous avez la liste de tout, la foire aux questions, en fait, qui est triée sous 5 secteurs. Processus global, l'approche intégrée corridor, le site lui-même, les formulaires de soumission et les outils de sélection. Vous avez une longue liste de questions triées par secteur qui vous permet de bien, en fait, ça répond à presque toutes les questions qui se posent et vous pouvez aussi nous contacter directement ici en envoyant en fait une question.
Krishna.
Oui, vas-y Younes.
Si tu peux, s'il te plaît, peut-être présenter le forum de discussion pour un projet, par exemple. Parce que tu es là en.
Alors, justement, une seconde. On va. On va prendre peut-être un projet francophone. On va prendre un projet de l'Afrique centrale. Celui-là, par exemple. Voilà. Voilà, c'est quand vous cliquez sur le projet, en fait, vous allez voir. Ça, c'est par exemple aménagement hydroélectrique du site Lancero et SCA Cameroun-Tchad. Vous avez en fait trois. Ça, c'est les informations de base, le titre, le secteur, le sous-secteur, etc. Là, c'est l'aliment stratégique, c'est les autres informations, les contacts du projet, donc qui sont les personnes contacts. Et au bas, vous allez voir commentaires. Aucun commentaire, soyez le premier à commenter. Donc là, vous pouvez ici venir rajouter un commentaire. commentaire et vous soumettez et ça va venir vers nous comment after moderation. Donc il y a un modérateur qui est de notre côté, donc nous on regarde le commentaire, si c'est quelque chose de valable, de valide, à ce moment là on valide et tout le monde à ce moment là voit le commentaire, ils peuvent répondre à ce commentaire, ça peut être une question que quelqu'un a soulevé laquelle les autres répondent, etc. Donc, c'est très interactif comme outil de communication et ce n'est pas un projet. C'est très, très centré sur ce projet-là. OK, donc on vous invite, une fois que votre projet, par exemple, sera sous cette forme, hein, avec ces informations de base que tout le monde peut lire, ça peut soulever, ça peut faire l'objet d'une discussion. OK, et vous aurez en fait un tracking, comment on appelle, un log, un archivage en fait de tout ce qui a été dit autour de ce projet. Ça permet de suivre les discussions. Younes, c'est ce que vous vouliez voir là?
Oui, oui, c'est bon. C'est juste, je voulais montrer l'exemple de comment faire la discussion.
Parfait. Merci, Krishna. Et donc, peut-être on passe aux questions des autres membres. Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur le procédé, le site ou alors même les projets eux-mêmes, les projets spécifiques que vous voulez discuter? Oui, alors il y a une main levée de... Attendez, hein. Jean Fouty encore, allez-y, on vous écoute.
Oui, docteur Krishna.
Oui, allez-y.
Oui, j'ai essayé tout à l'heure de me connecter au site
oui.
pour l'inscription, mais oui. j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre pour me dire que site est devenu obsolète ou TLS, c'est devenu obsolète. Je ne sais pas comment procéder.
Bon, écoutez, ce qu'on va faire, M. Jean Fouty, comme vous avez des soucis là, je vais demander à mon collègue qui s'occupe du site de créer en fait votre login. Donc, on l'a fait pour plusieurs collègues, hein. Vous n'êtes pas le seul, il y a certains qui ont des soucis. On vous a créé carrément le login avec le mot de passe, donc vous allez recevoir un mail. Il va vous dire voilà votre login, voilà votre enregistrement et voilà le mot de passe temporaire. Donc vous vous connectez une première fois avec ce mot de passe temporaire. Ensuite vous allez sur change password, vous changez le mot de passe, vous mettez votre nouveau mot de passe et à ce moment-là c'est vous qui mémorisez le mot de passe et vous aurez accès. On va faire ça. Donc je note ça.
D'accord.
Donc juste après là je vous demande à mon collègue de créer votre login et de vous envoyer par mail les détails. On va faire ça. Et c'est la même chose pour les autres. Pour tout. Si vous avez des soucis, malgré les liens, les guides, tout ça.
Je suis partant.
Une autre question.
Oui, allez-y. On finit d'abord avec
monsieur. Oui, quand on était à Abuja, à la fin, il était prévu qu'une formation sera organisée au cours du mois de septembre. Est-ce que ces webinaires que nous suivons représentent déjà cette formation?
Non, pas du tout. Ce webinaire, en fait, c'est les webinaires tous les deux fois par semaine qui pour aider, en fait, dans cette période de confinement, l'identification, la soumission de projet. Ce qui était prévu au mois de septembre, c'est quelque chose d'autre, c'était ce qu'on appelle un Continental Validation Workshop. C'était l'atelier de validation continentale. Qui était prévu une fois que tous les projets sont soumis, sont triés, sont priorisés. Là, on allait inviter tous les membres physiquement à 10 et tout. Bon, est-ce que ça va se faire ou pas? Personne ne sait. Hein. Honnêtement, à ce jour, extrêmement difficile de prédire la trajectoire de la pandémie, qu'est-ce qui va se passer, si ça va se faire ou pas, si ça va être en ligne ou pas en ligne. Personne ne sait. Donc, pour le moment, on progresse avec nos webinars, on progresse avec... Ce qui est important là, c'est de s'inscrire, de soumettre vos projets, d'initier vos discussions en ligne. C'est tout ce qu'on peut faire là. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire en physique, en déplacement, etc. Allons se focaliser là-dessus. On se donne 4, 5 semaines, 6 semaines s'il le faut, jusqu'au mois de juin s'il le faut. L'idée, c'est de sortir, d'aligner peut-être une centaine de projets. Si on arrive à aligner une centaine de projets valables, déjà, il y a 38 projets sur le site, hein, qui est exceptionnel dans les circonstances dans lesquelles on est. On a 150 personnes inscrites, 38 projets. Avec la CDAO qui prépare une 40 à 50 projets, je pense qu'on va y arriver. Hein. Il n'y a aucun doute qu'on aura d'ici 3-4 semaines une centaine de projets sur le site. Maintenant, l'idée, c'est d'améliorer la qualité des projets, de dialoguer autour de ces projets, de sorte à faire en sorte que cette pandémie n'affecte pas le PIDA. Parce que vous vous rendez compte, PIDA, c'est on prépare quelque chose qui va se faire dans les 10 ans à venir. Ce serait quand même dommage que cette pandémie vienne gâcher en fait cette opportunité. Et l'opportunité, elle est très, très ponctuelle dans le sens que si on arrive à faire ça, c'est-à-dire à soumettre nos projets d'ici, je dirais fin mai, début juin, ben à ce moment-là, rien ne change. C'est-à-dire que on trouve les moyens pour faire ce qu'il fallait faire jusqu'au mois de septembre pour soumettre ça au sommet de l'Union africaine pour être validé début 2021. Voilà un peu les enjeux, en fait. C'est pourquoi il faut se mobiliser, il faut faire ce que chacun doit faire, s'inscrire, soumettre ses projets, discuter, etc.
Merci, docteur.
Merci. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler, on a interrompu. Younes, c'était vous vouliez dire quelque chose?
Oui, c'est Camara, oui. C'est Camara.
Ah, Camara, allez-y.
En fait, de la même façon pour notre collègue de tout à l'heure, si vous pouvez m'inscrire sur le site aussi et m'envoyer le lien.
D'accord, monsieur Camara. D'accord, je note ça.
Voilà, de la même façon.
Ouais. Camara Mamadou à la
salle. Avec peut-être le login va être peut-être le mail et puis le mot de passe, je le changerai.
D'accord, pas de problème.
Merci beaucoup.
Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions d'autres membres? Mais monsieur Camara, vous êtes déjà inscrit, hein? Mamadou Alassane Camara? Du Sénégal?
Non. Oui.
Vous êtes inscrit? Hein? Vous êtes déjà inscrit, il n'y a pas de souci. Je vous vois,
Oui.
Vous êtes directeur.
Il y a mon collègue Diallo. Diallo m'a inscrit, oui.
Ah, mais vous êtes déjà inscrit. Ouais. Demandez les détails.
C'est mon collègue?
Ouais. Demandez-lui les détails.
Il m'a inscrit.
D'accord. Vous êtes déjà inscrit, il n'y a pas de souci.
En fait, je vous disais tout à l'heure, cette période, j'étais vraiment absent parce que j'ai perdu mon épouse, là. Donc, voilà. Donc, je ne suivais pas.
D'accord.
Merci.
OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Allons regarder dans le chat si on a des questions déjà. Bon. Il faut peut-être que j'arrête de share parce que je ne vois pas le chat.
Il y a deux mains levées. Il faut regarder. Ah. Il y a Alpha Omar et puis Baban.
Ah oui, voilà. Maintenant, je vois. OK. Monsieur Alpha Omar, on vous écoute.
Exactement. Je voulais faire un peu… Je voulais revenir un peu en arrière. Je voulais revenir un peu en arrière à propos de la question de… Monsieur Jean Fouti.
Oui.
À propos de l'eau, compte tenu de son importance, de sa transversalité.
Il y a un écho sur le.
Oui, attendez, il y a deux ordinateurs.
Je crois que c'est ça le problème. Il faut avoir une seule connexion, en fait. Hein. Sinon, ça fait un écho.
Non, de toute façon, vous savez, le problème de connexion, ce n'est pas aussi simple. Bon, chacun est indépendant dans sa connexion, c'est à cause de ça.
OK, allez-y.
Bon, je voulais tout juste revenir sur la question de M. Jean Poudy, sur la perte de l'eau, mais comme on va développer ça, M. Didi, moi, je crois que l'eau a une certaine transversalité compte tenu de son importance en matière d'atténuation et de son... C'est pour cela, nous... Quelque part, moi je suis gestionnaire des différents bassins versants chez nous. Dans l'élaboration de nos projets, que ce soit de barrage hydroélectrique, l'eau est la plaque tournante, par exemple.
OK.
Vous voyez, que ce soit les infrastructures, comment sauver les points spécifiques là où on peut trouver de l'eau, aussi, dans les études d'impact, dans l'élaboration, l'eau est une priorité. Vous voyez pour ce que je peux dire. Mais je crois que c'est un peu de façon précipitée. On va essayer de développer ça le jeudi.
D'accord.
Faire la part des choses.
Effectivement. Moi, je vous inviterai à vous raccorder, à vous connecter jeudi. Comme on aura un panel d'experts, ils vont faire des présentations, justement, une brève présentation.
Oui.
Et effectivement, je crois qu'on a réalisé que 2 heures ne seront pas suffisantes. Je crois que ce sera exceptionnellement un événement qui va durer presque 2 heures et demie. Mm-hmm. De 10 heures à 30 GMT. Donc, je vous invite fortement à vous connecter ce que je dis. Oui. Et on va vous envoyer, de toute façon, je vais vous envoyer le code CPE que je suis en train de traduire actuellement. Ça va être traduit. Agenda et la note de concept vont être expédiées d'ici la veille, donc mercredi. Vous aurez ça et puis vous pourrez vous raccorder jeudi pour suivre cette thématique sur l'eau.
D'accord.
Ok. Merci, monsieur Alpha Omar. On écoute monsieur Babanadio. Monsieur Babanadio, on vous écoute.
Ouais, moi, j'ai deux questions.
Vas-y.
Concernant les projets prioritaires d'infrastructure en Afrique de l'Ouest.
Oui.
Vous avez écrit d'abord, il y a le projet, après il y a le rang, après il y a la note et le rang. Pour la note, c'est sur combien? C'est 20 sur 20 ou bien c'est sur 100 ou bien c'est sur combien? Et le rang? Le rang varie entre 1 et 21. Qu'est-ce que ça veut dire?
Non. Attendez. Est-ce que vous vous référez au site web, là, quand vous dites rang?
Non. J'ai reçu ce document.
Oui.
De votre part. Et je vois la liste des projets. Et je vois aussi la note par projet et le rang de chaque projet.
Ah, non, je crois que vous faites référence au courrier envoyé par la CDAO, aux membres de la CDAO. Parce que moi, je n'ai pas reçu, ouais. Moi, je n'ai pas accès à ce courrier, en fait. C'est un courrier interne qui a été envoyé de la CDAO vers les membres. Donc, je n'ai pas connaissance de ce courrier. Mais là, je vous inviterai à vous rapprocher de M. Prisapia pour avoir les détails de comment ça a été fait le rang, comment a été fait le classement, etc. C'est quelque chose d'interne à la CDAO.
Oui. Vous dites d'approcher qui?
Ben, monsieur Prisapia, celui qui vous a envoyé le mail. Moi, je ne suis pas en copie. Je ne suis pas en copie de ça.
D'accord.
Si vous...
Allez-y, monsieur Didier.
Oui, merci. Le document que Prisapia a envoyé, c'est... un document qui a été élaboré sur la base des plans directeurs au niveau de chaque secteur.
Oui.
Et des critères de notation des projets qu'on avait définis au départ à Abuja.
Abuja, ouais.
Oui, si vous regardez, c'est fait secteur par secteur, ouais. Avec la notation de chaque projet.
Ouais.
C'est un document interne à la CDAO.
Merci.
Ça a permis de classer les projets de la CDAO, les projets qui sont déjà dans les plans directeurs de la CDAO par secteur.
D'accord, merci.
Donc, ce n'est pas un document de l'UA, au fait.
D'accord, merci beaucoup.
Merci, M. Didier Yahi. Du Bénin pour cette clarification. Et M. Demba a levé la main. Bon, on avait M. Akoda aussi. Bon, allons écouter M. Demba rapidement. Comme ça, on passe.
Oui, c'est tout juste au sujet de Prisapia. Comme il y a, je ne sais pas si on aura une séance pareille la prochaine fois, il conviendrait peut-être que Prisapia soit connecté pour pouvoir répondre un peu aux préoccupations des uns et des autres parce que.
Mais ils sont invités.
La CDAO est bien avancée et Prisapia a fait un travail de base. Je pense qu'il serait bien indiqué
qu'il se connecte.
Éclairer là-dessus.
Mais je vous confirme que tous les membres sont invités. Hein. Tous les représentants du REC sont invités à toutes les sessions de webinar. Ils sont dans le mailing que j'envoie. Vous allez voir tous les noms de, pas seulement Chris Serpierre, mais les autres aussi, ses collègues aussi. Ils sont tous invités. Bon, certains, des fois, ils arrivent à se connecter, mais pas toujours. Mais effectivement, c'est une bonne idée. Oui, allez-y.
Sans vous couper la parole, ce que je voudrais dire ici, c'est que de votre côté, il conviendrait de recommander fortement à Chris Serpierre de se connecter au moment où les francophones, donc en général, vont intervenir, et l'Afrique de l'Ouest principalement.
Okay.
Puisque lui, il est concerné en premier chef, c'est lui qui est notre point focal, le coordinateur de nos projets. Oui. Alors, s'il y a des questions dont on a besoin d'éclaircissement,
effectivement,
qu'il puisse nous les donner très facilement.
Effectivement, vous avez raison. Yacouba, tu veux intervenir?
Oui, en fait, par rapport à la préoccupation de M. Demba, peut-être c'est de proposer à Chris Apia s'il peut organiser un webinaire pour l'Afrique de l'Ouest, pour juste les experts de l'Afrique de l'Ouest. Comme ça, ils vont avoir des discussions qui sont centrées sur leur région.
C'est une très bonne suggestion.
Peut-être on peut proposer.
C'est aussi possible. Ce serait très, très bien d'ailleurs. Comme ça va faire moins de questions à Krishna.
Oui, très, très bonne suggestion. Donc, je vais reprendre la question avec ECOWAS, M. Chris Apia. On va essayer de trouver un créneau. Bon, le problème, c'est qu'on a ces créneaux mardi et jeudi. Donc, mardi prochain, c'est justement anglophone. Mais bon, rien ne nous empêche de par exemple, de refaire mardi prochain et de convier M. Chris Apia. Je pense que lui, il est un peu anglophone. Hein. C'est ça le problème, en fait. Hein, Chris Apia, s'il est francophone ou il y a peut-être des collègues qui sont francophones. Donc, on va essayer de s'assurer à ce qu'il soit accordé mardi prochain. Et comme ça, s'il y a des questions spécifiques par rapport à ECOWAS, à la CDAO, on pourra reprendre ces questions. OK? C'est une bonne suggestion.
OK, merci beaucoup.
Ouais.
Merci.
Oui. Monsieur Akoda, vous aviez soulevé la main. Et puis, il y a Baba Nadio, en fait, depuis longtemps. Peut-être on écoute à Monsieur Akoda rapidement.
Bonjour.
Vous êtes de quel, peut-être faites une brève introduction de quel pays, quel secteur?
Je suis Akoda, je suis au Togo.
Togo, oui.
Ministère des Infrastructures et des Transports.
OK.
D'accord. Et d'abord, vous dire merci pour le travail. Et je voulais proposer quelque chose. Et je dirais, heureusement ou bien malheureusement, Monsieur Yacouba m'a précédé. Je voulais demander à M. Chris Apia d'organiser une réunion pour pouvoir contribuer. Puisqu'il nous a envoyé la fois passée des propositions par secteur, je voulais parler des solutions d'un projet. Bon,
okay. Et
quand on était à Lagos, à Abuja, j'allais dire, et il a été dit que la CDAO va proposer ces projets. Mais on a demandé que, bon, avant de faire cette soumission, il faut quand même nous envoyer, il faut que chaque pays puisse regarder, voir s'il faut changer les choses ou bien proposer de nouveaux projets.
Bon, alors,
nous avons reçu ces projets-là. Je ne sais pas si il faut maintenant proposer des nouveaux projets ou bien. Et on va se baser sur ce que Chris Apia nous a envoyé.
Alors, moi, je suggère quelque chose de très simple, en fait, pour ne pas avoir ce souci de webinar déjà programmé. Pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas, par exemple, le mercredi prochain, une session dédiée ECOWAS, dédiée à la CDAO, où tous les membres de la CDAO et tous les membres de les points focaux CDAO, Chris Apia et son équipe, pourraient se connecter, et comme ça vous pourriez vous focaliser effectivement sur votre liste, sur la liste de projets très très concrètement, et on peut faciliter ça et sans problème. Donc c'est une bonne suggestion. Est-ce que mercredi prochain, même heure, hein, donc même heure, parce que c'est l'heure qui permet à peu près à tout le monde, quoique si c'est CDAO, on peut On peut même, quelle est l'heure préférable pour vous, comme vous êtes à peu près dans le même fuseau horaire. Je ne sais pas si ce créneau correspond à la meilleure. Le 10h GMT à midi GMT. Comme ça, on peut proposer ce créneau mercredi prochain et on fait une session dédiée CDAO.
Ouais, c'est une bonne proposition.
Si vous permettez.
Allez-y.
La proposition est bonne dans la mesure où nous avons déjà pris l'habitude de tenir des séances dans ce créneau de temps.
Ouais.
C'est bon de maintenir cela.
Parfait. On va maintenir à 10h GMT à midi.
Mais je crois que ce n'est pas le mercredi, je le mets quand même.
Non, c'est mercredi prochain. Hein. On parle bien de mercredi prochain, donc ça va être.
Demain, c'est le 20, donc le 27.
Non, ça va être. Demain, c'est le 13. Demain, ça va être le mercredi.
Le 20.
Le 20, voilà, mercredi 20. Voilà. Mercredi 20 mai. Ça vous donnera. On pourra circuler les invitations, ça vous donnera. De préparer. Alors, il y a une personne. Il y a un monsieur Yuze qui essaye de parler.
Il y en a qui est le chef de poste de communication.
Allô? Monsieur Babanadieu, vous aviez d'autres questions?
Non, j'ai fini.
D'accord.
J'ai fini pour le moment.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les membres?
Bon, pour moi, c'est bon.
D'accord, Monsieur Alassane.
Bonjour, Monsieur Krishna.
Oui, Monsieur
Asfar.
Oui, allez-y.
Ça va, vous allez bien?
Ça va.
Bonjour à tous, à toutes.
Oui.
J'espère que vous allez bien pendant cette période de pandémie. Donc, j'ai juste une question concernant le financement des projets. Donc, si on propose, par exemple, un projet relatif au développement du digital, donc, est-ce qu'il y aurait une contribution de l'Union africaine pour la mise en œuvre de ce projet ou bien d'autres parties prenantes? Et merci.
Donc, M. Nouridine du Maroc, vous êtes point focal, en fait, TIC du Maroc. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y aura une contribution financière? Mais en fait, comme on a essayé d'expliquer, une fois que le projet est soumis, donc allons dire dans votre cas, c'est un projet qui est soumis par un projet régional soumis par le Maroc, dans les TIC, je présume, à ce moment-là, ce projet va être, un peu en concurrence avec tous les autres projets dans la région Nord pour voir en fait si ce projet va se retrouver dans la liste prioritaire des 10 projets pour la région Nord. Si c'est le cas, à ce moment-là, ce projet va effectivement bénéficier de l'attention d'implémentation, de développement de projet. Donc, l'institution partenaire AODA, dont les collègues sont connectés, Younes et peut-être Christine vont pouvoir contribuer plus, vont faire les études, vont travailler sur ce projet avec des outils qu'ils ont pour améliorer en fait l'état de ce projet, l'état de préparation. Et effectivement, une fois que le projet est suffisamment bien documenté, les études sont faites, à ce moment-là, ça va passer à l'étape de recherche de financement auprès des bailleurs type BAD et autres bailleurs de fonds, banques et bailleurs de fonds. Peut-être Younes et Christine, vous voulez rajouter quelque chose? Ou Yacouba?
Merci, Monsieur Krishna.
Oui, Krishna, je pense que tu as bien fait le, le sommaire du processus de ces projets. Ce que je voudrais rajouter, c'est que, comme il a dit, il y a des instruments qui sont en place. Dépendamment du niveau du projet, ces instruments vont aider ces projets-là à évoluer dans le cycle de développement des projets. Notamment, il y a le SDM, si le projet n'est pas assez mûr, mais il y a aussi, au niveau de la BAT, la facilité de préparation de projet, ce qu'on appelle communément NEPAD IPPF. Et dans le processus de PIDAPAP 2, le focus principal de cette facilité de préparation de projet de la Banque africaine de développement va être vraiment focalisé sur les projets prioritaires du PIDAPAP 2. Avant PIDA, la BAT pouvait financer d'autres projets qui ne sont pas dans le portfolio du PIDA, mais à partir du moment où on approuve la nouvelle liste de PIDA en 2021, vraiment tout le support du NEPAD IPPS va être concentré sur les projets prioritaires du PIDA. D'où l'intérêt de proposer vos projets dans ce portfolio de PIDA PAP 2. Donc, une fois le projet est là-bas, AUDA NEPAD qui coordonne la mise en œuvre de ces projets va accompagner tous les projets dans leur cycle de développement jusqu'à la mobilisation des financements.
Merci Yacouba pour cette clarification vraiment pertinente. Est-ce que nous avons d'autres questions? Profitez-en, même si c'est des questions techniques, on peut revenir effectivement sur la présentation si vous avez des doutes, des questions qui ne sont pas claires sur les critères de sélection, comment les projets sont évalués et tout. On peut revenir là-dessus, on a le temps. Ou alors, si vous voulez comprendre plus, si vous avez des questions sur le site lui-même, on peut revenir là-dessus aussi. Bon, on n'a pas beaucoup entendu, peut-être Younes et nos amis de l'Afrique du Nord, peut-être. Je vois, il y a Hassan Bouti, quelques collègues chez TV, tout ça, qui sont connectés. Peut-être Younes, est-ce que vous pourriez nous guider un peu sur le processus retenu au niveau de l'UMA et l'Afrique du Nord pour la soumission? Est-ce que c'est plus décentralisé vers les pays ou centralisé au niveau de l'UMA? Younes? Allô, Younes?
Vous m'entendez, Krishna?
Oui, on vous entend maintenant. Allez-y.
D'accord. Donc, comme déjà discuté, on a dit que donc, pour la région du Nord, les pays qui vont se missionner, qui vont proposer les projets. Donc, c'est à eux par secteur. Et ils vont proposer leur projet. Et au niveau direct, au niveau du MA, on va valider, on va transmettre les projets prioritaires, les 10 projets prioritaires, ou bien une liste à la commission après. Donc, c'est maintenant les pays qui vont proposer des projets et les se mettre pour validation au niveau du REC. Maintenant, tout à l'heure, vous avez ouvert le site, malheureusement, on a vu que pour l'instant, il y a 0 projet proposé pour la région du Nord. C'est pas pour la région du Nord, c'est pour l'UMA, parce que c'est déjà pour la région du Nord, il y a 2 projets qui ont été proposés par l'Égypte. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui d'encourager les points focaux de la région du Nord à soumettre le projet. Certes, on est dans une phase de confinement, mais ça, si je me permets, ça ne doit pas être vu comme une prolongation indéterminée. Donc, on a pas beaucoup de temps, parce qu'on est au mois de mai, on est un peu en retard par rapport au deadline, par rapport à la présentation finale du projet au sommet en janvier 2021. Donc, il y a déjà des idées de projets au niveau du master plan de l'UMA. mais on ne se permet pas de le présenter actuellement au niveau du REC. On attend toujours les pays à présenter leur propre projet, parce que l'idée, comme tu as déjà dit, Krishna, c'est que lorsque le projet est proposé par l'État, il y a déjà l'implication des pays là-dessus. Il y a déjà il y a des petits invités ici. Donc, déjà, il y a le support de l'État. C'est ce qui est recherché et c'est ça la finalité du PIDAPAP 2 et la différence par rapport au PIDAPAP 1. C'est le processus de bas en haut. Donc, voilà ce que je veux dire. Merci.
Merci, Younes. Alors, il y a une question justement de chez Tibi. Si j'ai bien compris, les propositions des pays doivent être validées par le MAN. Pouvez-vous nous indiquer l'adresse d'envoi des propositions? Mais justement, en fait, on n'envoie pas les propositions. La seule façon de soumettre les propositions, c'est à travers le site. Comme je vous ai montré tout à l'heure, peut-être comme on va le reprojeter, en fait, la seule façon de soumettre les projets, c'est à travers le site web et c'est soumission de projet. Est-ce que vous voyez l'écran?
Oui, pour moi.
On voit l'écran.
Voilà. Quand vous rentrez sur le site, quand vous êtes inscrit, vous rentrez sur le site. Donc, si vous êtes inscrit OUMA, si vous êtes de la région Nord, d'après ce que Younes vient de dire là, quand vous vous enregistrez, on va vous allouer un droit d'accès point focal national. Point focal national veut dire que vous aurez droit à soumettre les projets en ligne et à modifier vos projets que vous avez soumis. Alors que Younes, par exemple, qui est point focal CER OUMA, aura le droit de voir et de modifier tous les projets de sa région, donc OUMA, de ses membres, en fait. Et comme ça, c'est ça qui lui permet de valider ce projet. Ça veut dire quoi, valider? Ben, il va juste regarder les projets, il va voir si ses projets sont alignés à son plan directeur. S'il y a des modifications à faire, ben, il va entamer un dialogue. Et c'est là peut-être qu'on va organiser un jour, j'espère, un webinaire dédié OUMA, comme on planifie de le faire pour la CDAO mercredi prochain. Donc là, une fois qu'on a en fait un travail préliminaire, une liste, etc., il y a peut-être un travail dédié qu'on peut faire au niveau de l'OUMA pour tomber d'accord sur cette liste et faire les choses plus ou moins. On peut le faire en live, hein, dans le webinar, on peut rentrer, faire des choses en temps réel, modifier, etc. Donc, la seule façon pour répondre à M. Chetibi, la seule façon de soumettre, c'est il faut s'inscrire. Alors, vous êtes de... Attendez, hein, je vais voir. Vous êtes de quel pays, M. Chetibi?
Elle est de l'Algérie, je pense. Monsieur de l'Algérie.
OK. Donc, l'Algérie, à ce moment-là, vous inscrire, vous êtes déjà inscrit. Vous avez les droits de points nationaux, point focal national. Donc, vous rentrez sur le site et dans soumission de projet, là, sur cette page, information de base, vous commencez à taper le titre du projet, le secteur, etc. Si vous n'avez pas terminé, ben, vous faites enregistrer le brouillon. Ça enregistre le brouillon. Vous venez le lendemain, vous pouvez continuer. Si vous avez des questions, ben, vous envoyez à Younes vos préoccupations, qu'il vous guide. Et comme ça, de proche en proche, on améliore ce brouillon de projet. Et jusqu'à, vous pouvez faire ça jusqu'à la date butoir, en fait, la date limite qu'on va établir dans quelques temps. Et comme disait Younes, il ne faut pas attendre la dernière minute. Hein, donc, il faut déjà. Et vous allez voir que la région Nord, c'est la région qui a le plus de retard. Probablement parce que vous n'avez pas vraiment bénéficié de cette formation en face à face. Mais il faut utiliser ces sessions pour rattraper. Hein. On n'a aucune autre façon que ces sessions qu'on organise. Donc, peut-être que Younes, allons réfléchir sur une session, je dirais, dédiée Ouma, une session dédiée au monde de Ouma pour voir comment on peut coordonner, synchroniser avec les membres pour établir une liste de projets prioritaires.
Oui, 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 Krishna, c'est une très bonne suggestion et ça va être bénéfique. Donc, juste on regarde les agendas et peut-être on propose une date pour la région Ouma.
Alors, si on garde le 20 pour la CDAO, si on garde en fait le prochain mercredi, si on dit que c'est un mercredi, ben, ça va être le mercredi du 27. Comme ça, mais entre-temps, il faudrait avoir de la matière première. Hein. Il faudrait déjà qu'il y ait des discussions, des mails qui sont circulés. Même le plus simple, je vous dis, comme j'essaie de vous dire depuis le début, utilisez en fait le site, même si c'est un titre. Même si vous n'avez qu'un titre de projet, mettez-le sur le site. Comme ça, il devient visible et c'est beaucoup plus pratique que d'échanger des dizaines de mails parce que là, c'est quelque chose qui est visible par tous les membres. Vous pouvez donner des commentaires, comme je vous ai montré, et utiliser ce site comme un outil de dialogue, en fait, qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus pratique que d'écrire des mails avec des copies et ensuite avoir à traquer ces mails, quoi, à garder la trace, à suivre ces mails. Les mails, c'est bien, mais à un moment donné, ça devient extrêmement compliqué de savoir qui a envoyé le mail, qui a initié, à documenter les mails, en fait. Alors que là, vous avez un outil qui le documente automatiquement, à la fois les projets et les discussions sur les projets. Donc, on va rester en contact avec UNES pour planifier, en fait, cette session dédiée à Ouma. Membres, spécifiquement les membres de Ouma, hein, je dirais même pas forcément la région nord, mais spécifiquement les membres de Ouma comme REC, comme CER pour la région, pour cette région, et tous les membres de Ouma.
D'accord, Krishna. Donc voilà, on reste en contact pour planifier
cette session dédiée à Ouma. D'accord.
Oui, d'accord.
Monsieur Khaled, ah, madame, c'est Khaled El-Jendi, c'est peut-être docteur Taini, je ne sais pas. On vous écoute.
Bonsoir, monsieur Krishna, comment ça va?
Oui, ça va.
C'est toujours le trick. Je voudrais demander deux petites questions. La première, en ce qui concerne le toolkit, Job Creation Toolkit, parce que je crois que j'ai reçu un email de monsieur Malam, hein, qui pour avoir une estimation pour les jobs.
Oui.
Il doit avoir accès au toolkit et on ne lui a pas encore donné l'approbation. Alors, ça, c'est quelque chose parce que pour pouvoir faire l'estimation des jobs, il paraît qu'il doit avoir accès au toolkit. Alors, ça, c'est premièrement. Oui. Alors, si on pourrait faire quelque chose à ce propos, ça serait très bien. Deuxièmement, en ce qui concerne encore le gender, le gender mainstreaming et le pourcentage. Encore ça, c'est toujours dans l'abstrait, on a mis quelque chose, un pourcentage, bon, qui est vraiment une somme, un pourcentage très de principe, quoi. On sait comment faire pour améliorer la précision de ce pourcentage. Et troisièmement et dernièrement, comment faire pour avoir accès à quelqu'un qui revoit de son point de vue, c'est-à-dire est-ce qu'une liste d'experts, le task force, une liste d'experts qui peuvent jeter un coup d'œil sur la forme et dire comment l'améliorer. Non, du côté du commissaire, parce que déjà, on a fait ce qu'on peut faire dans, à ce propos, mais pour faire le fine-tuning d'un côté externe. Alors, comment faire ça? Merci beaucoup.
OK. Alors, on prend note, on va faire en sorte à ce que M. Malama de la Commission ait accès au Job Creation Toolkit. Effectivement, oui. c'est un accès, c'est pas public, c'est un accès qui est autorisé. Donc, moi, je vais demander à mon collègue de AODA, donc Ephraim, qui s'occupe du toolkit, de donner cet accès et de s'assurer à ce qu'il ait accès pour pouvoir utiliser cet outil. L'autre question que je n'ai pas bien compris, en fait, c'était sur le pourcentage pour gender. Peut-être ça, oui. Ça, je n'ai pas tout à fait compris la question. Mais...
Comment faire pour améliorer? C'est-à-dire, la précision, c'est seulement un pourcentage comme ça. Alors, comment faire pour donner un pourcentage un peu plus précis? Quelle est l'aide?
Non, peut-être que je résume un petit peu la question. Hein. En fait, ou alors je clarifie peut-être le processus peut-être pour tous les membres en fait. Le critère genre, il a un poids de 10% dans ce qu'on appelle les 8 critères. C'est un critère qui est un poids de 10%. Et ce critère est un critère nominatif, c'est-à-dire elle est évaluée de façon nominative. Le projet en question propose, allons dire, zéro action ou une action en faveur de qui est gender sensitive, donc qui favorise le genre, alors ce projet va scorer 1. S'il propose 2 actions, le projet score 2, 3 actions, jusqu'à 5 actions, et au-delà de 5 et au-delà, le projet score le maximum. Donc, il y a une normalisation de 1 à 5. Donc, en fonction de la note du projet. Voilà, la note, les projets sont notés de 1 à 5. Et ensuite,
c'est-à-dire, on doit noter, on doit écrire les 5 actions.
Voilà.
Quelles sont les actions? C'est-à-dire, voilà. On doit nommer les actions.
Voilà, exactement. Ah, vous allez voir dans le online submission form, hein, dans le site, il faudra d'abord nommer, lister les 5 actions que vous proposez. C'est des intentions d'action. Hein. Bon,
oui, ça, oui, je comprends.
Il faut que des intentions d'action. Et ça va être visible. D'accord. Et bon, en termes de guidance, effectivement, c'est une très bonne question. Ben, vous avez les membres du Task Force, les membres de Anwin, tout ça, qui peuvent effectivement vous aider. Et ils sont tous raccordés, ils sont tous enregistrés sur le site. Donc, je vous inviterai fortement d'abord à inscrire votre projet, à le documenter au niveau du genre. On vous a aussi communiqué la liste de tous les membres de Anwin. Vous avez la liste de tous les membres du Task Force dans le fichier Excel qui a été circulé à tout le monde. Vous pouvez aussi soulever des questions. Hein. Vous pouvez sur le site même soulever le « Nous contacter ». Vous avez la fonction « Nous contacter ». Vous avez le site web dédié PIDA, l'adresse PIDA-PAP2, qui vient directement à un groupe de personnes. Et nous, on peut à ce moment-là réorienter votre question si c'est spécifiquement par rapport au genre, vers les experts genre, vers les membres du Task Force, qui vont pouvoir vous aider à clarifier en fait votre action pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci dans un deuxième temps, que l'action ne soit pas, disqualifiée et tout. Donc, vous avez effectivement… Mais ce qui est important, c'est de le documenter. Par rapport à quel projet, mettez-le sur le projet, documentez votre projet et soulevez la question. À ce moment-là, nous, on va pouvoir intervenir là-dessus.
Très bien. Merci, M. Krishna. C'est très gentil.
Voilà. Merci. Merci à vous. On attend… je vois toujours une main levée, mais ça, on a déjà répondu. Est-ce qu'on a d'autres questions, les membres? Si vous n'avez pas de questions, moi je voulais demander, est-ce qu'on a des représentants de la région centre? Alors j'ai toute la liste devant moi, mais Est-ce qu'il y a quelqu'un de la région centre? Gabon, Tchad, tout ça? Allô? Non, je pense qu'il n'y a personne. Donc, nous avons essentiellement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Je regarde dans le chat s'il n'y a pas des questions. Non, il n'y en a pas d'autres questions dans le chat. Je vois que Yacouba est parti. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous voulez qu'on repasse sur la présentation, par exemple, la présentation en français? Vous voulez qu'on repasse rapidement sur les critères, par exemple, pour les personnes du Sénégal, ou s'il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir à Abuja? Vous voulez qu'on fasse ça, si vous n'avez pas les questions?
Oui, ce serait bien, je suis connecté, je vois un peu le...
D'accord, ben écoutez,
les vidéos et tout ça.
Je vais essayer de...
Ça peut être utile, hein? Ça peut être utile.
D'accord, je vais ouvrir la présentation, alors donnez-moi une seconde. Alors, je vais prendre déjà celle sur les critères. Est-ce que vous voyez l'écran?
Oui, on voit.
OK. Donc, ça, c'est la présentation, je dirais, sommaire, qui est aussi disponible sur le site, hein, d'ailleurs. Alors, donc, on avait préparé ça pour Ouma, mais bon, c'est valable pour tous les amis francophones. Alors, peut-être, je passe rapidement là-dessus, et puis on va peut-être prendre des questions par rapport à cette présentation. Alors, l'approche des corridors intégrés depuis DAPAP 2 est utilisée comme base conceptuelle et c'est ce qui distingue en fait PIDAPAP 2 de PIDAPAP 1. Les deux choses qui distinguent PIDAPAP 2 sont d'abord l'approche de corridors intégrés et l'aspect, je dirais, d'impact économique, c'est-à-dire que la promotion de l'emploi, protection du climat, sensibilité à la dimension genre et connectivité rurale. Voilà en fait les nouveaux éléments d'inclusivité, en fait l'approche plus inclusive qu'on a, plus orientée impact économique depuis DAPAP 2. Alors, quelle est la logique de ces critères de sélection? C'est que les ressources financières et les capacités de mise en œuvre sont limitées, surtout peut-être maintenant, beaucoup plus pertinent après le post-Covid. Dans le monde post-Covid, en fait, l'argent risque d'être plus rare, les ressources financières et aussi les priorités. Donc, comme vous savez, COVID, l'impact de COVID sur l'Afrique subsaharienne va être vraiment dramatique au bas de l'échelle. Donc, tout ce qui est pauvreté, accès aux services de base, même le JAR, en fait, on prévoit qu'il y aura un impact disproportionné par rapport au JAR. Donc, tous les progrès établis, beaucoup de progrès établis au cours de ces décennies passées en termes de lutte contre la pauvreté et de progrès dans le genre vont être en fait annulés, renversés. Donc, c'est bien que PIDA, en fait, en quelque sorte, est prêt en fait pour cette phase pour cette approche beaucoup plus inclusive, beaucoup plus orientée création d'emplois, genre, protection de l'environnement, et en général développement durable. Donc pourquoi en fait critères de sélection, c'est qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas se focaliser sur trop de choses, donc même si on a une longue liste d'une centaine de projets, il faudrait à un moment donné avoir une short list de seulement 50 projets. c'est le but de PIDAPAP 2, c'est-à-dire 10 projets par région sur lesquels on va se focaliser dans un premier temps pour essayer de réaliser ces projets. Donc voilà la logique de critères de sélection. Ensuite, corridor intégré, et ben c'est un concept qu'on va éclaircir à travers des exemples concrets dans les critères. Ça, c'est en fait le processus. On est à l'étape rouge, donc l'étape d'identification de soumission de projet par les REC et les États membres. Ensuite, à l'étape 3, on va passer à l'étape, critères de sélection, l'application des critères de sélection par la task force, par le groupe de travail, et ensuite validation par le sommet des chefs d'État. Ça, c'est la liste des 4 secteurs et des sous-secteurs PIDA. Donc, à ce stade, nous avons en fait 4 secteurs et une quinzaine de sous-secteurs. Et ce sont les sous-secteurs qui sont éligibles pour la soumission des projets PIDA. Ça, c'est le calendrier, si vous voulez, les 5 grandes étapes. Donc, on est à l'étape 1, soumission. Ensuite, on passera à l'étape d'éligibilité pour établir la longue liste. Donc, éligibilité veut dire quoi? On va voir tout de suite, juste après. Et ensuite, il y a l'étape de screening, d'application des critères pour sortir la shortlist. Et c'est cette shortlist qui va être discuté, présenté au mois de septembre dans une forme de validation continentale. Je ne sais pas si c'est physique ou pas. Et ensuite, soumis au sommet de l'Union africaine. Donc, 2 séries de critères, éligibilité et sélection. Donc, critères d'éligibilité, ça va être le critère d'intégration, essentiellement d'intégration régionale. Donc, pour qu'un projet soit éligible, il faut qu'il soit un projet cross-border, donc qui chevauche plusieurs pays. Et donc, comment on va évaluer ça? Il faut déjà soit que ce projet figure dans le plan directeur de la CER. Et s'il ne figure pas, il faudrait que ce soit un projet où il y a un accord clair, un accord écrit ou une forme d'accord entre les pays participants ou bénéficiaires du projet. OK? Donc, c'est une approche binaire. On passe ou on échoue. Et une fois qu'on a passé ce critère éliminatoire d'éligibilité, ben on rentre dans la longue liste. Ensuite, pour passer dans la short list, il faut être évalué selon les 8 critères. Alors, quels sont les 8 critères? On va voir en détail les 8 critères. Ça, c'est la liste des 8 critères. Critères corridor, emploi, environnement, genre, connectivité rurale, urbaine. Critères économiques. Donc, en fait, c'est impact économique. Et critères financiers. Et finalement, il y a un 8e critère qui s'appelle innovation. Alors, voilà en fait le tableau de tous les critères. Donc, les 2 critères éliminatoires, d'éligibilité, son projet régional et accord clair des pays concernés. Et donc, projet régional, ça veut dire, est-ce que le projet figure dans le plan directeur des CER? Et est-ce qu'il y a, ou bien est-ce qu'il y a un accord clair entre les pays concernés? Et finalement, les 8 critères qui sont répartis en fait dans 2 groupes, le groupe inclusivité et durabilité. Donc, c'est la dimension genre, 10%, connectivité rurale, 5%, et climat, 10%. Et le groupe économique et financier, qui est planification par corridor, 15%, création d'emplois, 10%, impact économique, 25%, attractivité financière pour le privé, 20%, et innovation, 5%. Voilà. Et ensuite, ben ça, c'est la liste, en fait, la façon dont les critères sont évalués. Il y a 5 critères qui sont évalués de façon nominale. Corridor, genre, économique, financier et innovation. Et 3 critères de façon proportionnelle. On va voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire proportionnel? relative à la meilleure performance dans le pool. Donc, ce sont les critères emploi, nombre d'emplois créés, critères environnementaux et connectivité rurale et urbaine. Alors, le premier critère, c'est le corridor, poids de 15%. Alors, comment ça se fait? C'est, on a on va évaluer en fait le degré de chevauchement avec des infrastructures existantes. Avec des infrastructures existantes. Et voilà les notations nominatives, nominales. Si le projet, bon, on pourra regarder en détail, hein, de 1 à 5, plus le projet est chevauche, plus le projet est en overlap, est en chevauchement avec des infrastructures existantes ou planifiées, plus il va scorer. Donc, il score 5. S'il y a plus de 50% de chevauchement géographique entre le projet proposé et un projet existant ou planifié. Alors, on va voir des exemples concrets. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez regarder, la présentation est disponible sur le site. Vous pouvez télécharger cette présentation et regarder en détail et nous poser des questions si ce n'est pas clair. Ça, c'est un exemple du corridor d'interconnexion, le projet de transport Bénin qui est superposé à un projet existant, donc le projet autoroute Lagos-Abidjan. Donc, il va scorer, il aura une note élevée parce qu'il est en parallèle avec un autre projet existant. Voilà un exemple de corridor intégré. Le critère emploi, il vaut 10%. Et la façon dont ce projet est évalué, c'est que, comme on a parlé précédemment, la boîte à outils, le Job Creation Toolkit, la boîte à outils AODA, est utilisée pour évaluer le nombre d'emplois créés. Et on regarde, en fait, dans le pool régional, dans la région où le projet est soumis, quel est le projet qui crée le plus d'emplois. Ce projet va scorer 5 et tous les autres projets vont scorer proportionnellement plus bas. Voilà ce que ça veut dire proportionnel. Donc, c'est l'implication concrète, c'est qu'on ne peut commencer l'évaluation que quand on a atteint la date limite, en fait. C'est-à-dire, il faut connaître tous les projets pour pouvoir noter les projets de façon proportionnelle dans le pool. Voilà, en fait, l'implication. Pourquoi c'est important à ce que tous les pays dans la région, ou même toutes les régions, ne prennent pas de retard à ce qu'on puisse définir une date butoir pour pouvoir faire cet exercice de notation proportionnelle. Un exemple, c'est cet exemple, la route qui est donnée là, où on a une note donnée par rapport au nombre d'emplois créés. On a ensuite ce critère climat, qui est lui aussi proportionnel. Donc, c'est le cycle de vie, les gaz à effet de serre émis pendant le cycle de vie du projet. Et la même chose, c'est qu'il faut connaître. Donc, on prend en fait concrètement tous les projets, par exemple, dans une région, allons dire la région ouest. S'il y a 50 projets soumis dans la région ouest par la CDAO, ben, on va évaluer quel est le projet qui émet le moins de gaz à effet de serre. Ce projet aura la note de 5. Et tous les autres projets, les 49 autres projets seront notés proportionnellement par rapport à leur émission de gaz à effet de serre pendant la durée de vie du projet. Ça, c'est un exemple concret d'un barrage hydroélectrique, etc. Vous pouvez regarder et vous allez voir comment se fait ce calcul. Ensuite, il y a le genre qui est un critère nominatif, comme j'ai expliqué. Donc là, le critère, c'est par rapport au nombre d'actions. Une action, c'est une notation de 1, 5 actions, ou plus, c'est une notation de 5. Et c'est nominal. Voilà, ça, c'est un exemple de notation de ce critère. Vous avez ensuite la connexion spatiale. Donc, la connexion entre comment est-ce que le projet proposé dessert en fait les zones rurales. Voilà comment c'est calculé. Et bon, c'est un peu, ça paraît un peu compliqué, mais dans la réalité, c'est simple. On regarde en fait les agglomérations de moins de 50 000 habitants. C'est ça la définition de rural. Et on regarde quelle est la proportion des populations impactées positivement par ce projet par rapport à la population totale. Et c'est un rating qui est proportionnel par rapport au pool régional. Voilà. Voilà l'exemple de ce critère de connectivité rurale et comment ça se fait de façon dans le pool régional. Ensuite, nous avons l'impact, le critère le plus important. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 5 premiers critères? Peut-être avant de passer à la suite?
Pas exactement, plutôt c'est les critères qui viennent après.
D'accord. Alors, le critère numéro 6, c'est le plus important. Et la façon dont... Bon, c'est pour évaluer le critère d'impact économique qu'on a utilisé, en fait, ce qu'on appelle le AIDI, que vous voyez ici. C'est l'index l'index de développement des infrastructures qui est établi par la BAD, qui est tous les ans remis à jour. Et on va utiliser la version 2018, qui est la dernière disponible. Et là, vous voyez, là, j'ai recopié en fait cet index, les Seychelles, l'Égypte, Libye, l'Afrique du Sud, l'île Maurice, tout ça sont en tête de liste. Et au bas de l'échelle, on voit Somalie, Sud-Soudan, Niger, Tchad, avec des notations, des index de 3, en fait moins de 10. Donc, la façon dont ce critère va être marqué, va être scoré, c'est que la moyenne, en fait, on va prendre la moyenne de l'index AIDI, des pays participants. Et si cette moyenne est inférieure à 10, le projet va scorer 5, donc la note maximale. Et si la moyenne est supérieure à 50, elle va scorer 1. Et vous voyez que ce qui est important à noter, c'est que les pays les plus développés, donc tout ce qui est de Seychelles jusqu'à, je dirais, Cap-Vert, qui a une note, un index de 48, vont saturer, dans le sens que vont pas scorer plus que si ces pays-là soumettent un projet, comme le AIDI est déjà bien supérieur à 50, ben ils vont scorer seulement 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une région donnée, le poids de 25% pour ce critère aura tendance à privilégier les pays de cette région qui sont le moins développés. Donc, les pays qui ont cette moyenne de AIDI le plus faible vont scorer la note la plus élevée, donc ce projet va être évalué. Quelle est la logique? C'est que plus l'index AIDI est bas, ça veut dire que moins l'infrastructure dans le pays est développée, donc par conséquent, plus un projet d'infrastructure aura de l'impact économique. Voilà un peu la logique. C'est une logique un peu basique, je suis d'accord, mais en fait, c'est l'intérêt, c'est que ça permet, avec très très peu d'informations, en fait, aucune information, on n'a besoin d'aucune information sur le projet. Le projet n'est basé que sur l'appartenance au pays, en fait. Qui soumet le projet est plus important, pas le projet lui-même. Donc, le contexte. Voilà, en fait, la façon dont c'est noté. Et plus la moyenne est basse, mieux sera le score. Ça, c'est un exemple d'un projet où on calcule la moyenne et ça détermine le score de 3 pour ce projet. Donc, de la même façon, l'attractivité financière qui vaut 20%, qui est lourd, qui est
très... je allez-y, pose une question.
Oui, allez-y, allez-y. Oui. On écoute la question.
Si je prends un projet qui traverse plusieurs pays qui n'ont pas le même index.
Oui. Allons prendre un exemple concret. Donnez-moi un exemple d'un projet qui traverse.
Je prends, par exemple, le cas du corridor Praia de Abidjan. Cap-Vert qui a un bon index. Sénégal moyen. Le Libéria moyen, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire qu'on prend la section
la moyenne.
Projet qui traverse le pays, on applique l'index et on fait la moyenne.
Non, on prend tous les projets du pays. On prend tous les pays du projet, pardon. On prend la liste de tous les projets de ce pays. Si le projet est défini comme Cap-Vert, c'est Praia Dakar ou non? Praia Dakar à la Dos. C'est ça?
Praia, Dakar, Abidjan, Lagos, voilà. On traverse le Libéria, le Niger, la Sierra Leone et tout ça.
Dans tous les pays participants. Alors, quels sont les pays participants? C'est ceux que vous allez mettre dans le site. Vous rappelez-vous, dans c'est le ça. Site, vous avez un champ qui s'appelle pays bénéficiaires ou participants. Donc, la liste de tous ces c'est pays, ça. Sierra Leone, Libéria, tout ça. On va prendre la moyenne basique. Hein. C'est pas même pas une moyenne pondérée, c'est une moyenne.
Là, vous faites une moyenne arithmétique, quoi.
Une moyenne arithmétique, voilà. La moyenne arithmétique de tous les AIDI. Bon, il faudra la calculer. Hein. Bon, entre le Libéria, le Sénégal, le Cap-Vert, etc. Le seul, comme vous dites, qui est fort, c'est Cap-Vert. Nigeria, c'est quelque part. Je sais pas, je le vois. C'est 22.
C'est 22.
C'est pas 22, aussi. Donc, effectivement, ce projet-là risque d'avoir peut-être une moyenne de l'ordre de entre 15 et 25 ou entre 10 et 15. Je dirais plutôt 15 et 25. Donc, c'est ce projet-là pourrait scorer peut-être 3.
Certainement. Parce qu'il y a des pays qui ont, par exemple, si je prends le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, tout ça, c'est très faible.
Très faible. Voilà. Donc, voilà la logique, en fait. Qui est utilisé pour, vous allez voir, c'est une logique très inclusive. Ça permet de faire bénéficier, de faire remonter dans la priorité. Dès que vous avez, en fait, ça encourage en fait les pays les plus développés de la région à intégrer les collègues, les pays les moins développés à travers des projets d'intégration régionale. C'est tout l'esprit de l'intégration régionale, en fait, hein, vous comprenez?
C'est ça. Mais en fait, la remarque que je voulais faire, parce que bon, moi j'étais à la réunion d'Addis, pour laquelle on avait quand même fait un certain nombre d'observations quand le consultant CPCS avait fait sa présentation.
Au mois de novembre, je me rappelle, au mois de novembre.
Au mois de novembre. Mais ici, la moyenne qui aurait pu s'approcher le plus de la réalité, c'est celle pondérée. Si 1000 km passent par exemple au Libéria, je donne un exemple banal comme ça. L'idée, c'est de pondérer et de dire, voilà, c'est celle-là qui aurait donné la. Vraiment, en tout cas, qui s'approcherait plus de la réalité. C'est-à-dire que si 20 km traversent Abidjan, 20 km traversent le Sénégal et que c'est 1000 qui traversent le Libéria, vous voyez un peu. Donc, c'était un peu des choses comme ça qu'on avait fait, des remarques qu'on avait faites pour que les gens puissent les prendre en compte. Mais je vois que peut-être ça n'a pas été fait.
Alors,
ils ont suggéré que.
Oui. Je me rappelle de cette suggestion qui était une très bonne suggestion. Mais. En fait, je réalise que la difficulté, en fait, il faut aussi comprendre que ce critère doit s'appliquer à tous les quatre secteurs. Dans le cas des routes, c'est très clair, c'est nombre de kilomètres de route.
Absolument.
Dans le cas d'une ligne de transmission, effectivement, peut-être aussi une ligne de transmission, ça risque d'être probablement, peut-être déjà moins clair, parce qu'une ligne de transmission peut traverser un pays sans bénéficier le pays.
Exactement.
Mais dans le cas de l'eau et des tics, ça devient de moins en moins.
Ouais, c'est plus compliqué. Ouais.
C'est beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est la région qui a un peu motivé le CPCS et le Task Force à vraiment simplifier, en fait. Je suis d'accord effectivement. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le groupe de travail, hein, il n'est pas aveugle. Je veux dire, à un moment donné, il y a c'est justement cette phase de validation continentale qui permet en fait à tout le monde de revoir, d'ajuster, de peaufiner finalement.
Parfait.
les critères, hein, de revoir si c'est ça l'occasion de faire ce travail de revue, de correction, je dirais, éventuelle, à travers un consensus. Hein.
Ça renvoie un peu à l'observation qu'on avait faite sur les critères à venir là, sur la rentabilité financière.
Ouais.
Bon, à l'époque, on avait dit que nous sommes des États. Nous travaillons pour les populations. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une différence entre la rentabilité économique et la rentabilité financière, surtout dans le secteur des infrastructures où ce n'est pas évident de monter des projets, surtout de ce genre, des projets régionaux de ce genre rentables financièrement, parce que peut-être certains pays qui auront du mal, compte tenu de l'environnement économique des pays, à justifier justement cette rentabilité. Mais peut-être que le fait que ce projet soit intégrateur, ça pourrait aider. Mais on avait demandé quand même qu'il y ait une légère différenciation entre le critère économique, qui pour les États est le plus important, et le critère de la rentabilité financière, qui effectivement est le critère qui attire le secteur privé pour le financement justement des infrastructures. Bon, je vois que les deux critères sont plus ou moins semblables, à 5% près. Bon, ça aussi, peut-être que ça, c'est lié au fait qu'il y a des projets, tels que les projets d'énergie, qui ont une rentabilité peut-être financière beaucoup plus élevée que ceux des infrastructures routières.
Oui. Alors, très bonne question, mais en fait, ce critère d'attractivité financière, c'était aussi une des remarques, en fait, une des demandes des pays membres et des bailleurs et des institutions pour dire que finalement, les États n'ont pas tous les moyens, hein, n'ont pas toujours les moyens de financer, et c'était aussi important d'attirer en fait le financement privé à travers en fait ce critère qui permet de valoriser les projets qui ont le plus de chances d'attirer les financements privés. Donc vous allez voir dans ce qui est présenté à l'écran, traditionnellement, historiquement je dirais, hein, dans les bases de données de projets, c'est les projets TIC qui ont la plus forte, je dirais, rentabilité dans le temps aussi. Hein, vous avez mentionné le plus
important.
C'est les projets qui se rentabilisent à plus court terme. Ensuite, portuaire. Ensuite, tout ce qui est aéroport, transport aéroportuaire, etc., électricité, finalement l'eau et finalement les barrages d'irrigation. Et n'oubliez pas que, par exemple, un exemple qui a été repris plusieurs fois, rien ne vous empêche, et je vous invite peut-être à vous connecter jeudi, où cette l'eau va être prise, par exemple. Rien n'empêche un barrage d'irrigation d'intégrer une composante énergétique, d'intégrer une composante transport, je ne sais pas.
C'est le critère intégré.
Voilà, multi-critères, multimodal intégré, et là, ça ne permet pas à ce projet de scorer sur d'autres critères, je dirais. Pas seulement, même si c'est ce critère-là, il va scorer plus faiblement sur les critères attractivité financière, mais il va peut-être scorer sur d'autres critères de corridor intégré, etc., d'emploi et tout. Hein?
Parfait.
Donc, il y a une façon de mitiger en fait ce risque. Par exemple, qu'un barrage d'irrigation soit défavorisé parce qu'il ne va scorer que un dans ce critère.
C'est ça.
OK. Donc, la critère d'innovation a été rajoutée, en fait. Ça a été rajouté après novembre. Si vous étiez présent en novembre 2019, elle n'était pas là encore à l'époque. C'est la STC, en fait, les ministres qui ont décidé, qui ont demandé, en fait, ce critère, ou justement valoriser les projets qui montrent un caractère innovant, pas seulement technologique, mais aussi modèle financier, modèle d'implémentation, etc. Voilà en fait les 8 critères de sélection. Donc, je résume en fait, vous avez les deux critères d'éligibilité qui permettent à la liste, au projet d'accéder à la liste de réserve, hein, c'est la longue liste. Les 8 critères permettent d'établir cette liste prioritaire de 10 projets par région. Et c'est une liste tournante, une liste prioritaire tournante dans le sens que une fois que les projets dans cette liste prioritaire de 50 projets gradués, je dirais, passent à l'étape supérieure, qui est l'étape d'implémentation, de recherche de financement, ben, il y a d'autres projets qui remontent, d'autres projets de la longue liste qui remontent dans la short list. Et comme ça, c'est un processus tournant qui se passe sur les 10 prochaines années. Donc c'est voilà, ça c'était les critères de sélection. Donc, je vous invite peut-être à, si vous avez des questions spécifiques par rapport à on s'approche un peu de la fin, mais normalement, on est prévu de s'arrêter à midi GMT, donc dans 2 minutes. Mais bon, le lien va rester ouvert pendant quelques temps encore. C'est prévu pour une demi-heure. Donc, si vous avez d'autres questions, moi, je suis là. On peut parler. Sinon…
Non, c'est parfait. C'est parfait.
Ouais, le séminaire. Donc, n'oubliez pas, première chose, il faut s'inscrire, rentrer en contact avec votre REC, tomber d'accord sur la liste et mettre le projet sur le site pour pouvoir entamer la discussion. Et commencer à zoomer en fait sur la vision finale de votre projet.
Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous, Monsieur Mamadou.
Merci. Merci à tous et bonne journée à vous.
Bonne journée. Prenez soin de vous.
Merci à vous et vous aussi restez en sécurité, en bonne santé surtout.
Merci. Merci. Et bonne journée.
Bonne journée à vous.
Que Dieu vous garde. Merci.
Merci.
Merci à vous et à la prochaine. Merci.
Bonne journée à tous. Restez sains et saufs.
Ouais.
Merci beaucoup.
Younes. Merci pour la participation.
Monsieur Temba, on est ensemble, tu m'as sans nous inviter?
Pardon? Vous pouvez répéter la question?
Oui? Monsieur Temba, il mange, il ne nous a pas invité?
Grand frère, ça va bien.
La prochaine fois, je vais vous inviter.
Ouais, prochainement.
Allez, oui.
Merci.
Merci.
Monsieur Akoda est là. Vous êtes parti déjà.
Monsieur Akoda, il est peut-être déjà parti. Hein.
D'accord, merci.
OK, je vous invite en fait à vous connecter ce jeudi pour la session sur l'eau. Et pour nos amis de l'Afrique de l'Ouest, on a prévu la session du mercredi prochain, pas demain, mais dans une semaine, pour la session dédiée à l'ECOWAS, à la CDAO, pour les beaux projets.
Hi, Krishna.
Hi, Abdou, yes.
Can you also announce the webinar for Thursday?
Yes, I've done this.
Okay.
On Thursday, we've discussed Lendily since the beginning about the importance of water, and that Thursday will be the opportunity to listen to the experts in the water sector. And to discuss about this fairly neglected water sector in PIDA.
Okay.
Definitely, we've done this. Yeah. Thank you, Abdou. Yeah.
Okay. See ya.
See you, Abdou. Thank you. Donc, notre collègue de Aouda, Abdou, nous rappelait de vous rappeler en fait de ne pas rater cette opportunité jeudi, unique, je dirais. Ce sera peut-être la première fois qu'on aura autant d'experts autour du plateau qui vont présenter et vous aurez l'occasion de bénéficier de leur expertise pendant 2h30, quoi. De 10h GMT à midi et demi GMT ce jeudi. Vous avez déjà le lien dans l'invitation de celui-ci, mais je vais circuler en fait l'agenda et la note de concept détaillée d'ici demain. OK. Ben, je crois qu'on est arrivé à la fin. Et Christine, vous voulez rajouter quelque chose de Aouda? Ou s'il y a quelqu'un qui veut rajouter un dernier mot, vous voulez y aller?
Krishna, n'oubliez pas pour la...
Oui, oui. Je fais ça tout de suite. Là. Je demande la création de votre login tout de suite.
Pour l'inscription et le mot de passe.
Tout à fait, ouais. Okay. Sans problème.